Des poches sous les yeux, l'interview, en partenariat avec la boîte à livres.
Merci, merci Jean Lebrun de nous recevoir à l'occasion de votre passage à Tours et à la boîte à livres. On cite la boîte à livres puisque c'est notre partenaire pour présenter votre livre Les grands débats qui ont fait la France et avant la signature que vous allez assurer ce soir à la boîte à livres. Et moi, la première question que je me suis posée, en fait, c'est est-ce que c'est votre passé de travaux publics sur France Culture où vous adoriez les débats et vous les animiez de manière excellente. Enfin, on est tous des fans de cette émission, ça je vous apprends rien. Est-ce que c'est ce goût du débat qui vous a fait vous intéresser au débat, cette fois-ci, de l'Assemblée nationale?
C'est aussi le goût du théâtre, parce qu'une proposition est venue depuis la Comédie française de raviver plus que de reconstituer les débats qui avaient eu lieu à l'Assemblée et un peu au Sénat depuis 1789. Et depuis 2-3 ans, tous les 2 mois, on a reconstitué déjà une dizaine ou une quinzaine de séances. Alors de la tradition de travaux publics, des hauts et des bas, comme vous diriez, j'avais gardé le plaisir d'être debout et de donner la parole aux uns et aux autres. Alors maintenant, je fais le président. Sur la scène du Vieux Colombier, c'est quand même très très impressionnant, dans le couloir sacré de Jacques Copeau. C'est là qu'il a donné naissance au nouveau théâtre contemporain, il y a de ça un siècle, et je distribue la parole entre Danton et Robespierre et Mirabeau, Jaurès et Clémenceau, Mendès France et Simone Veil, les interprètes étant les comédiens du français.
Et là, le texte est connu d'avance, contrairement à Travaux publics, où vous faisiez un malin plaisir de se faire rencontrer des gens qui ne se rencontreraient pas sans vous. Là, le texte est connu, et c'est le texte qui est important dans cette mise en scène.
Enfin, vous savez, le Parlement, ça ressemble un petit peu à ce qu'est un café, en plus grand. Je faisais Travaux publics dans des cafés, et en effet, s'y rencontraient des gens de cultures différentes, mais dans un Parlement, se rencontrent des gens de cultures différentes. Le texte est connu, il est établi le plus sérieusement possible par Isor Pisanifer. J'ai une collaboratrice qui porte un grand nom, l'aristocratie républicaine, petite fille d'Edgar Pisani et descendante de Jules Ferry. Elle va aux archives de l'Assemblée, aux archives du Sénat. Elle établit les textes. Alors il ne faut pas croire qu'on les a manipulés. On les coupe. On procède à des coupes. Mais c'est le texte fidèle. Alors vous me direz, il n'y a pas de surprise. Oui, parce que nous regardons l'histoire du bout du chemin, là où elle a abouti. Ce qui est intéressant dans une émission d'histoire, c'est de faire en sorte que les interprètes, les partenaires, eux, comprennent qu'ils ne savent pas la fin et se mettent dans la situation de ceux qui ne savent pas la fin. Vous savez, comme dit la publicité pour la série Un village français, vous connaissez l'histoire, eux la découvrent.
Un point intéressant quand même, c'est cet aspect archive, et on découvre en lisant votre livre et sûrement en allant au Vieux Colombier, à quel point très très tôt, au moment de la Révolution, des gens prenaient des notes de tout ce qui se passait dans l'Assemblée, y compris les commentaires dont vous parliez, y compris les interruptions.
Parce que c'est une enceinte sacrée, où il doit y avoir des secrétaires de séance, et j'ai retrouvé, au moment où je finissais d'établir l'anthologie, il y a une cinquantaine de débats parlementaires, ce qu'avait fait Charles Péguy dans 2 numéros des Cahiers de la Quinzaine. Il avait dit, c'est extrêmement important que les mandants puissent lire ce que les représentants font de leur mandat. Et il recommandait de tout noter. Pas seulement le texte des orateurs principaux, les interruptions, bien sûr, en identifiant les interrupteurs. Oui. Et c'est tout un art du secrétaire de séance, d'une profession, que de pouvoir mettre un nom sur un visage. Et les députés, ils tiennent à ce que leur nom, quand ils interrompent, soit saisi. Il y en a un qui allait rejoindre, dit la légende, sa maîtresse la nuit. Il tenait à ce que sa femme puisse lire dans le compte-rendu. Le lendemain qu'il était intervenu à 21h et qu'il était réintervenu à 2h du matin. Et Péguy disait, il faut aussi reconstituer les attitudes. Lui, l'aurait recommandé au secrétaire de séance, ce qui ne faisait pas partie de leurs attributions, de noter que Jaurès se tenait d'une main à la tribune et qu'il avait en général une seule main libre qui virevoltait au-dessus de sa tête et que son pantalon était tire-bouchonné. Et donc les silences, les interruptions la parole, c'est tout un dispositif qui circule comme ça et qui mérite d'être, comme au théâtre les didascalies, noté avec le plus de scrupules possible.
Alors, on se rend compte aussi que c'est très très violent. Les débats à l'Assemblée nationale, on a tous en tête, puisque c'est les 40 ans de la loi Veil, on a tous en tête la façon dont Simone Veil a été traitée à l'Assemblée nationale, et vous en parlez dans le livre. Moi j'ai vu aussi la façon dont Blum est traité en 36 et comment des députés disent on en a marre d'être gouvernés par des juifs, et ça c'est très préméditeur de ce qui va se passer.
C'est Xavier Vallat qui dit ça. Oui. Il dit pas qu'on en a marre d'être gouverné par un juif qui vient du fond des Carpates. Il dit que c'est la première fois que ce vieux pays est gouverné par un individu surgi du diable Vauvert. Et c'est pas n'importe quel député. Xavier Vallat, ensuite, a été le premier commissaire aux affaires juives du maréchal Pétain au début du régime de Vichy, et c'est lui qui a établi le statut des juifs. Il y a aussi, puisqu'on parlait de Jaurès, une scène fameuse où Jaurès est à la tribune, il occupait souvent la tribune très très longtemps. Et c'était pas toujours ses amis socialistes, avant qu'il ait fait l'unification de la SFIO, qui étaient les plus fervents pour l'applaudir. Mais il avait des adversaires violents, et on a vu une fois un royaliste le prendre par le paletot et lui donner un coup de poing pour qu'il déote, comme on disait à l'époque, de la tribune. Oui, il peut y avoir des affrontements violents. En même temps, il y a la sociabilité parlementaire qui, dans une époque très importante, celle de la naissance du parlementarisme sous la monarchie constitutionnelle entre 1815 et 1848, peut prendre la forme d'un club. Les députés comparent volontiers, puisqu'ils sont tous du même monde, qui sont issus du suffrage censitaire. Il y a seulement ceux qui payent un impôt important qui sont jugés capables d'être électeurs. Ils peuvent comparer la chambre à un salon. Et puis, après, il y a une autre forme de sociabilité parlementaire qui ne vient pas du fait qu'on est tous de la même origine sociale, qu'on appartient tous à l'aristocratie ou à la bourgeoisie, mais qui vient du fait qu'on est tous, à partir de 1910, les rouages d'une mécanique parlementaire. On pourrait presque dire qu'il y a quelque chose de l'usine dans le Parlement et quelque chose de la camaraderie ouvrière qui s'établit au Parlement. Quand, à partir de 1900-1910, sous l'influence de Jaurès, qui veut unifier les socialistes et qui leur impose le vote groupé, la discipline de groupe, quand il y a un boîtier au bout des travées, c'est-à-dire un député qui collationne les votes, même ceux des absents, du même groupe politique, pour que tout le monde soit aligné sur la même position, les temps modernes s'ouvrant ainsi, les députés se considèrent un petit peu comme des ouvriers à la tâche, et ils compensent le fait qu'ils sont un peu mécanisés, automatisés, en se livrant à la buvette, par exemple, ou dans les couloirs, ou dans la cour de l'Assemblée nationale, à une camaraderie de plus en plus affectée, enfin de plus en plus visible. Donc ils se tutoient à partir de ce moment-là. L'opinion considère que ça montre que le Parlement n'est qu'arrangement, mais c'est une forme de sociabilisation qui atténue ce qui peut se passer dans la salle de séance.
On a tendance aujourd'hui à s'offusquer de ces débats violents, mais est-ce que c'est pas finalement le signe que le Parlement représente vraiment le peuple, d'avoir finalement des affrontements assez violents et des idées vraiment dures qui s'affrontent au sein du Parlement?
Il y a deux conceptions du parlementarisme. Il y a celle que vous défendez, là, que vous illustrez, et à laquelle quand même sont attachés les Français. Quand Charles Péguy fait la collation des débats parlementaires pour les cahiers de la quinzaine, en même temps qu'il se félicite de faire ça, il dit, un peu désolé, les Français n'aiment pas qu'on leur reconstitue devant leurs yeux des séances de travail. Ils aiment qu'il y ait de l'émotion, que ce soit des séances théâtrales. C'est pour ça que ça marche, ce qu'on fait avec les comédiens du Français au Vieux-Colombier. Et puis il y a l'autre culture parlementaire, qui est celle de la négociation, du compromis.
Alors, en lisant votre livre aussi, le titre c'est Les grands débats, mais finalement, moi je me suis demandé si c'était pas plutôt les grandes personnalités, parce que vous faites un focus sur des. On a Tocqueville, on a Proudhon, on a Hugo, et, enfin, le discours de Tocqueville par exemple est assez incroyable d'actualité. Il pourrait être repris, l'adresse au roi où il se plaint des mœurs des politiques en disant bientôt il y aura une révolution parce que vous êtes tous pourris, en gros, hein, le tous pourris d'aujourd'hui. Donc j'ai l'impression que vous êtes quand même intéressé à des hommes, pas beaucoup de femmes d'ailleurs, hein, mais à des hommes surtout, qui vont changer la France parce qu'ils ont envie de la changer eux.
Vous ne faites pas un procès en manque de féminisme. Vous savez bien qu'il n'y a de parlementaires que depuis l'Assemblée consultative d'Alger, en 43-44, avec notamment Lucie Aubrac, qui a eu pas mal de parlementaires femmes sous la 4e République, mais au début de la 5e République, et déjà dès la fin de la 4e République, moins. Non, on n'a pas eu l'idée de faire les grands duels, les grands affrontements entre hommes. Il y a un livre, mais ça c'est le style Figaro Magazine, c'est coproduit par le Figaro Magazine et le Figaro Histoire, qui s'appelle « Les grands duels », qui ont fait l'histoire de France et qui paraît en même temps que celui-ci. Nous, ce n'était pas notre projet, mais il s'avère en effet qu'il y a des personnalités dominantes qui s'affirment. Et Albert Demain, par exemple, enfin, qui n'apparaît pas suffisamment dans le livre, qui était un député catholique social d'origine légitimiste, rallié à la République dans les années 1890 comme à regret. C'est un nom qui n'est pas très connu. Il incarnait une tendance qui mérite d'être retenu. Donc vous citez, vous, Tocqueville, Mirabeau, j'ai cité Jaurès, il faudrait parler de Clémenceau. Les quelques grands orateurs qui ont compté peuvent être relativement méconnus aujourd'hui, de Ledru Rollin, le républicain de 1848, à Albert Demain, le royaliste de 1890. Donc il y a des hommes qui émergent, plus d'hommes que ceux dont la mémoire a retenu l'importance, et c'est toujours quand même dans une symphonie, dans un orchestre. C'est très rare, les duels. Alors il y en a un très connu, 1885, Jules Ferry a établi le socle de la République avec ses lois, la liberté d'élire les maires, la liberté de la presse, la liberté de l'association, vous savez. Sur les murs, autrefois, on lisait liberté, égalité, fraternité, loi du 29 juillet 1881, la loi sur l'obligation scolaire et la laïcité à l'école primaire ensuite. Et en 1885, Jules Ferry, qui n'est pas populaire, il n'a jamais été populaire, bute sur les crédits des expéditions coloniales et Clémenceau, tombeur de ministère, hostile au colonialisme, s'oppose à lui et profite des difficultés militaires que connaît Jules Ferry au Tonkin, dans ce qui va devenir l'Indochine française, pour le prendre à partie. Là, il y a un duel. Mais
qui est très bien rendu dans le livre.
Et qu'on l'a reconstitué avec beaucoup de succès pour Clémenceau, parce que l'opinion ne comprend plus le point de vue de Jules Ferry par deux fois au vieux colombier. Mais les duels sont quand même assez rares, et quand, dites-vous, les grandes personnalités s'affrontent, elles sont 4-5, symphonie, orchestre.
Alors il y a aussi une espèce de nostalgie quand même dans le livre, des grands débats des temps anciens, et moi ce qui me surprend toujours, c'est à quel point aujourd'hui avec les médias, alors, vous êtes un homme de radio, avec l'internet, etc., à quel point les gens, le peuple, n'est pas au courant, et n'écoute pas ce qui se passe au Parlement. Il y a de l'anti-parlementarisme, certes, mais finalement, les médias ne sont pas mis au service du Parlement. Il y a une chaîne parlementaire, il y a l'Internet, mais si je veux savoir ce qui se passe au Parlement, c'est compliqué.
Mais le mot nostalgie, c'est vous qui l'utilisez. Moi, je n'utilise jamais le mot nostalgie. C'est vous qui, filant d'un débat à l'autre de 1789 à la 5e République, avez vu, sans doute, que l'art oratoire s'est un peu érodé, oui, voire éteint. Mais il y a des explications à cela. C'est que les sujets sont plus techniques, demandent une compétence extrêmement pointue. Bon, et puis que les ressources de l'art, de la rhétorique, on les enseigne plus dans les écoles. Et que maintenant, on demande à la ministre de la Culture de lire des fiches et non plus de lire des livres, ce qu'elle fait parfaitement. Donc, il y a une baisse de l'intensité de l'éloquence, c'est évident, et une montée de la nécessité de compétences. Alors, ce que vous dites de la retranscription des débats parlementaires, c'est autre chose. C'est vrai qu'il n'y a plus de journalistes dans les tribunes qui ont leur petit écritoire avec le nom du journal auquel ils sont affectés, et que si les journalistes viennent au Palais Bourbon, ils y viennent quand même toujours nombreux, c'est pour recueillir dans les interruptions de séance ou à la fin des séances, dans la salle des pas perdus, les réactions des ténors de l'interview courte. Tout ceci se fait sous le regard d'Albert Demain, statufié, de Mirabeau, statufié, et de Jaurès, statufié, qui doivent penser qu'il y a en effet une décadence, un déclin. Mais évidemment, maintenant, on est au temps des réseaux sociaux, de l'automaticité. Madame Morano gère son tweet, et puis quelqu'un d'autre lui répond, qui fait gérer son compte Twitter par une agence ou un petit groupe de communicants, et puis les balles passent avec une rapidité qui n'est pas celle des débats parlementaires. Et puis, c'est pas nécessairement une rançon, une conséquence de l'antiparlementarisme. Il y a eu des moments beaucoup plus violemment antiparlementaires que celui qu'on connaît. C'est une conséquence de la relative marginalisation du Parlement. Les débats se font ailleurs. Ils se font par la manifestation autour du Palais Bourbon quand il y a le mariage pour tous. Ils se font par les consultations du débat public quand il y en a sur des sujets très techniques. Souvent ça marche pas. Le dernier exemple en date, les nanotechnologies, ça n'a pas été un débat exemplaire. Se fait par les blogs et par Internet. Mais ça reste quand même, le débat parlementaire, une partie essentielle, il me semble, de la vie publique. On perdrait beaucoup si le débat parlementaire était encore davantage réduit.
Et on a multiplié les lieux de débat aussi, puisqu'il y a les conseils généraux, régionaux, les municipalités dans lesquelles ça débat aussi. Donc finalement, par rapport à le 18e ou 19e siècle, est-ce qu'on débattrait pas finalement plus qu'à cette époque-là ?
Simplement, il y a le risque maintenant qu'on préfère au débat l'achat. Il y aurait une tendance qui consisterait à faire de l'élection un geste électronique comme tous les autres qu'on connaît. On va pas passer trop de temps à cette affaire-là. Le dimanche, on a quand même autre chose à faire. Les FNAC sont ouvertes maintenant. Les zones de chalandise élargies. Alors, faut continuer à consommer. Et alors, si l'élection pouvait se résoudre d'un petit clic. Donc, les débats, il y en a beaucoup. Mais la tendance à privilégier l'achat et à considérer l'élection comme un geste d'acheteur assez anodin, un parmi mille autres qu'on pose, est assez lourde et dangereuse.
Alors, juste pour finir, vous animez La Marge de l'Histoire sur France Inter à 13h30. Je fais de la pub pour France Inter sur Béton. Je sais pas si on devrait, mais bon.
Peut-être en échange, en bon partenariat, ferais-je de la pub pour les hauts et les bas. Excellent débat sur Radio Béton. J'ai bien appris ma leçon.
Mais ça vous manque pas, vous, personnellement, ces débats que vous animiez à Travaux Publics, dont on parlait au début de cette interview?
Si, beaucoup. C'est pour ça que chaque fois que l'occasion m'en est offerte, si je peux aller courir les régions, me déplacer dans les librairies, trouver un salon ou une tribune ou écouter, je le fais. Je pense que c'est une des grandes faiblesses des médias parisiens de vivre en vase clos et d'être complètement omnibilé par la perfection technique et la rapidité de la réaction. Ce sont ça, les priorités que nous nous sommes à tort données. Et on a aujourd'hui la possibilité technique pourtant de faire du reportage très aisément. Vous vous enregistrez tout seul, vous n'avez besoin de personne. De se déplacer très rapidement. Il n'y a plus besoin des grands cars techniques d'autrefois pour monter un spectacle dans une rue. Et on en fait moins que Jean Nohain en 1946, quand il faisait des émissions publiques sur les ponts de Paris. Et on ne se déplace que si les services de communication et au fond les instruments de mesure du marketing vous ont indiqué que oui, il y aura un public suffisamment important, un public qui correspond à notre image, ou un public qui correspond à celui qu'on rêve d'avoir, pas trop de vieux, beaucoup de jeunes par exemple, dans le cas de France Inter, et il faut des logos partout pour que ce soit bien visible. Et donc quand il y a un déplacement, c'est un bastringue et pas une occasion d'écouter l'auditeur. On fait trop de bruit pour pouvoir l'écouter. Donc les occasions d'écouter alors que notre volonté de se faire entendre est trop forte manque cruellement. Et moi, j'en suis en effet privé et fort triste.
Bien, ben merci de nous avoir donné cette occasion de débattre et on va vous laisser rejoindre vos lecteurs pour parler de ce livre. Donc Jean Lebrun, Les grands débats qui ont fait la France chez Flammarion, c'est coédité par France Inter. Merci.
C'était l'interview des poches sous les yeux en partenariat avec la boîte à livres. Retrouvez cette interview sur radiobeton.com, despochessousleyeux.fr ou encore la page Facebook des poches sous les yeux. I'm gonna have to get it.